des sons. La clé des sons, pour pénétrer au cœur d'une œuvre, une émission dirigée par le chef d'orchestre Michel Brun. Caprice numéro 24 de Paganini.
C'est une petite mélodie toute simple, en apparence anodine. Juste quelques notes qui semblent tourner sur elles-mêmes à la façon d'un chien qui se mord la queue. On ne s'y trompe pas pourtant. Cette mélodie va rendre célèbre son auteur et avoir des prolongements musicaux inattendus. Mais ça, nous y reviendrons, c'est une autre histoire. Alors, qui est l'auteur de cette mélodie? C'est un certain Niccolo Paganini, jeune violoniste virtuose italien. Mais cette dernière précision est presque inutile, tant depuis déjà de longues années, cet instrument, le violon, est devenu le symbole des solistes de la péninsule. Tout comme la flûte traversière est alors une spécialité française, ou l'orgue, une spécialité allemande. Il suffit de nommer Torelli, Corelli, Vivaldi, Tartini, Viotti. Paganini est né en 1782 à Gênes, dans une famille pauvre. Vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'il montra très tôt des dispositions extraordinaires pour la musique. Les professeurs d'instruments ont coutume de dire que le plus grand talent ne donne rien sans un travail acharné. Paganini en est un exemple, puisqu'il semble que son père l'enfermait durant des heures pour qu'il s'exerce à son instrument, n'hésitant pas à le priver de nourriture s'il estimait son travail insuffisant. Cette méthode, tout en délicatesse, porte rapidement ses fruits. Niccolo devient un virtuose hors norme. Lorsqu'il compose sa série de 24 caprices, sa toute première œuvre publiée, il a une vingtaine d'années, mais il a déjà composé beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été éditées. Parallèlement au violon, il pratique également la guitare, qu'il semble estimer plus difficile que le violon. On lui prête cette phrase « Je suis le maître du violon, mais la guitare est mon maître ». En tout cas, on sait qu'il donna des concerts au cours desquels il jouait alternativement des deux instruments. Voici un extrait d'une œuvre pour les deux instruments, mais ensemble. Thank you. Petit à petit, naît la légende de Paganini. Légende qu'il contribuera lui-même amplement à nourrir par le soin qu'il apporte à ce qu'on appelle de nos jours la com, c'est-à-dire la promotion personnelle. On raconte qu'il lui arrive, par exemple, de jouer sur une seule corde, un morceau déjà extrêmement difficile avec les quatre cordes du violon, laissant croire que les trois autres ont cassé accidentellement au cours du concert. Or, tout cela est soigneusement préparé en amont. Il a travaillé auparavant le morceau sur cette unique corde et a consciencieusement limé les trois autres pour qu'elles cassent au bon moment. Lui-même le raconte en enjolivant sans doute un peu les choses. Un soir, après avoir ôté deux cordes à mon violon, j'improvisais une sonate intitulée « Scena amorosa », supposant que la corde grave était l'homme, Adonis, et la chanterelle, la femme, Vénus. Telle est l'origine de l'habitude que je pris de jouer sur une corde, car après les éloges qu'on me donna sur cette sonate, on me demanda si je pouvais jouer sur une seule corde. Ma réponse fut « Certo ». Cette légende est aussi alimentée par son physique, qu'il soigne tout autant que son travail instrumental. Voici ce qu'en dit un critique du temps. Il est aussi maigre qu'on peut l'être, avec cela un teint blême, un nez d'aigle, pointant en avant de longs doigts osseux. À peine paraît-il pouvoir supporter ses habits, et quand il fait la révérence, son corps se meut d'une façon si singulière que l'on craint à tout moment de voir ses pieds se séparer du corps et l'homme entier s'écrouler en un tas d'ossements. Berlioz, lui aussi, retrace dans ses admirables mémoires sa rencontre avec Paganini. Enfin, pour comble de bonheur, un homme, quand le public fut sorti, un homme à la longue chevelure, à l'œil perçant, à la figure étrange et ravagée, un possédé du génie, un colosse parmi les géants que je n'avais jamais vu et dont le premier aspect me troubla profondément, m'attendit seul dans la salle, m'arrêta au passage pour me serrer la main, m'accabla d'éloges brûlants qui m'incendièrent le cœur et la tête. C'était Paganini. Enfin, cette légende est nourrie par la vie qu'il mène. Il parcourt l'Europe, multipliant les concerts triomphaux. On ne compte plus ses conquêtes féminines, et il fait même quelques jours de prison pour avoir enlevé la jeune et belle Angiolina. Il demande des cachets exorbitants, mais refuse de jouer pour un concert caritatif. Il créera à Paris le Casino Paganini, qui sera un échec commercial. Bref, il fait partie de ces artistes aventuriers dont l'Italie a le secret. Génie, menteur, fripon, séducteur, tel Casanova, Da Ponte ou Vivaldi, parfois même assassin, tel le sculpteur et orfèvre Benvenuto Cellini. Commence à naître alors une rumeur qu'il entretient soigneusement. Il serait un sorcier, voire pour certains, un être possédé par le diable, ce mythe idéal du romantisme. D'ailleurs, Goethe lui-même, qui s'y connaît dans ce domaine puisqu'il est l'auteur de Faust, s'en mêle. Je pense qu'un tel phénomène n'est pas explicable par le seul jeu des lois humaines. Alors qu'en est-il au juste ? Génie, comme le laisse entendre le doux Schubert lorsqu'il écrit « Dans l'adagio de Paganini, j'entendis le chant des anges » ou habile Butler, tout juste bon à bluffer un public vulgaire, comme l'écrit ce critique. « Je fus une fois à ses concerts et jamais plus il ne m'y reverra. Il a une grande agilité dans la main gauche, mais qu'on peut acquérir par l'exercice, sans talent, ni génie, ni esprit, ni intelligence. Ce n'est qu'une habileté purement mécanique. Les choses qu'il répète surtout sans cesse sont un inexprimable amalgame sur le chevalet qui ne forme nullement des sons harmonieux, mais un gazouillement de moineaux. Puis à la fin de chaque variation, un pizzicato rapide de 6 notes avec la main gauche. Il conduit son archer aussi pauvrement qu'on peut l'imaginer. Peut-être la vérité se situe-t-elle plutôt entre les deux, comme l'exprime si bien un compositeur du temps, Ludwig Spohr. Sa main gauche, comme ses intonations toujours pures, me parurent admirables. Dans ses compositions et son jeu, je trouvais cependant un certain mélange de génialité et d'un manque de goût enfantin. De sorte que l'impression finale, après plusieurs auditions, ne me satisfit pas complètement. Le 24e caprice de Paganini, que nous allons entendre maintenant, est construit sous forme de variations, destinées à mettre en valeur toutes les facettes de la virtuosité de leur auteur. Écoutons-le, interprété par Itzhak Perlman, dans un enregistrement déjà ancien de 1972, mais sans doute inégalé.